Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, une délégation du gouvernement malien en route vers le village Peul de Gossagou, endeuillé par un massacre. Aucun espoir de voir un jour les auteurs de cette tuerie jugés. Correspondance de Bamako. La presse britannique qui compte ce matin jusqu'à 11 membres du cabinet de Theresa May qui souhaite sa démission au lendemain d'une mobilisation des anti-Brexit d'une ampleur historique. Nous serons en ligne de Londres. Le service après-vente pour le compte du géant de la téléphonie Huawei du président chinois ce matin à Monaco. Et puis la face cachée du globe qui s'attarde entre autres sur la visite aux États-Unis du premier ministre israélien en pleine campagne électorale. Au Mali, nul n'est en mesure de dresser un bilan précis du massacre de villageois Peul perpétré dans la nuit de vendredi à samedi par, selon les premiers témoignages de rescapés, des assaillants en tenue de chasseurs dogons. Plus de 130 morts selon le préfet de Bankass, Boubacar Kané. Des enfants, des femmes et des hommes de la localité de Gossagou. Les conditions de sécurité sont à ce point dégradées dans le centre du Mali que les enquêtes sur ces récurrentes violences intercommunautaires sont compliquées et potentiellement embarrassante pour le gouvernement. C'est une correspondance de Bamako de Coralie Pierret de RFI.
Le premier à condamner ce drame insoutenable, dit-il, a été le chef de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Aux côtés d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en visite à Bamako, Mahamat Saleh Anadif a enjoint à l'État de stopper la spirale de la violence dans le centre du Mali. De leur côté, le gouvernement et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta sont restés plutôt muets, hormis un communiqué officiel qui assure qu'une enquête est ouverte et qu'un conseil des ministres extraordinaire se tiendra ce dimanche. Si les réactions des autorités de Bamako sont aussi timides, c'est parce qu'elles sont pointées du doigt. L'origine du conflit chez nous, c'est la négligence, confiait un représentant des autorités locales, avant d'ajouter « L'État a été alerté, mais il nous a laissé à notre propre sort. L'armée présente dans la zone à quelques dizaines de kilomètres du village massacré est arrivée sur place dans l'après-midi samedi, alors que les assaillants avaient attaqué à l'aube. Ce cas de Gossagou n'est pas un cas isolé. Les attaques de villages sont quasi hebdomadaires depuis la fin de l'année 2018. Plusieurs associations, dont la Fédération internationale des droits de l'homme et Human Rights Watch, se sont inquiétées en fin d'année dernière de la lenteur ou de l'absence de réponse des forces de sécurité maliennes pour protéger les civils. Côté justice, aucune poursuite judiciaire n'a été entreprise contre les auteurs présumés.
Liberté, dignité, justice sociale, ces idéaux universels portent le mouvement de jeunes contractuels de l'enseignement marocain en grève depuis le 3 mars dernier. Depuis 2016, priorité est donnée à des recrutements par contrat à durée déterminée. Ils gagnent comme leurs collègues titulaires 460 € par mois, mais ne cotisent pas pour leur retraite. Les forces de l'ordre ont violemment dispersé leur rassemblement la nuit dernière à Rabat. Au Mozambique, les autorités ont livré dans la matinée un nouveau bilan provisoire après les inondations et le passage du cyclone Idai. 446 morts et 1500 blessés. Selon le ministre de l'Environnement, Celso Correia, 530 000 personnes sont affectées par cette catastrophe. Sur place, l'aide humanitaire s'organise. Ghassan Aboushar supervise la mission de Médecins sans frontières depuis Paris.
Dans les premières cliniques mobiles et les centres de soins où on a travaillé depuis 2 jours, on voit beaucoup de patients, spécialement avec des cas de diarrhée sévère et de malaria. Là, aujourd'hui, le premier risque plus grand, c'est les diarrhées liées à l'accès à l'eau. On est en train de regarder tous les cas qu'on a vus depuis 2 jours, spécialement les enfants avec des diarrhées sévères, et de voir de tester aussi pour des maladies un peu plus sévères, comme du choléra ou d'autres. Alors c'est tout lié en fait à l'eau et à l'assainissement. Ce qui est clair qu'aujourd'hui la population a beaucoup de difficultés à se loger et à avoir de l'accès à l'eau potable spécialement. Donc on travaille aussi à amener une capacité de purification de l'eau pour pouvoir donner de l'eau potable à la population. Le malaria, c'est un problème dans la zone déjà, c'est une zone où le malaria est endémique. Dans ces situations, aujourd'hui, les moustiques, il y a une présence plus grande. C'est aussi à cause de la déplacement de la population, où ils sont en dehors de leur maison. Il y a plus de cette maladie qui commence. Ça, c'est lié à la zone elle-même, on peut dire, plus à la situation de la population.
Ghassan Aboushar, de Médecins sans frontières. Un million de voix anti-Brexit dans les rues de Londres. L'onde de choc est telle que la semaine à venir, plus encore que toutes les précédentes, s'annonce délicate, voire vitale pour Theresa May. La Première ministre n'a que 2 semaines pour ne plus échouer aux communes. Bonjour, Marina Daras.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Londres. Marina, que percevez-vous au lendemain de cette marche des anti-Brexit ?
Alors la pression, elle ne cesse de monter pour Theresa May. Selon les organisateurs, il y avait 1 million de personnes dans les rues de Londres hier. C'est une manifestation d'une ampleur historique. La dernière fois que le Royaume-Uni a vu une telle mobilisation, c'était contre la guerre en Irak du temps de Tony Blair. D'ailleurs, certains politiques insistent sur la comparaison et demandent à Theresa May de ne pas ignorer la protestation comme l'avait fait Tony Blair à l'époque. Mais ce matin, la presse britannique s'agite plutôt sur la fronde politique qui s'organise et menace Theresa May. C'est une conséquence directe de la manifestation d'hier, puisque beaucoup de ministres se sont rendus compte qu'ils pouvaient difficilement ignorer 1 million de personnes dans la rue.
Alors Marina Daras, quid justement de Theresa May ?
Alors, les mots coup d'État apparaissent dans plusieurs journaux ce matin, dont le Sunday Times, le Daily Mail et le Sunday Telegraph. Il y aurait eu hier soir une série d'appels téléphoniques privés au cours desquels les ministres auraient convenu que Theresa May allait devoir se retirer si les gouvernements voulaient faire passer l'accord négocié avec l'UE. La fronde se constituerait pour l'instant de 11 membres de son cabinet. Tout laisse à croire qu'une sorte de rébellion aura lieu lors de la prochaine réunion du cabinet, où au moins 6 de ces ministres devraient apporter leur soutien au vice-premier ministre actuel, David Lidington, pour pouvoir mener le Brexit à son terme. D'autres personnes ont été annoncées comme susceptibles de prendre sa place, comme Jeremy Hunt, ou encore Michael Gove. La démission de Theresa May pourrait donc être imminente et elle deviendrait alors la réponse politique au blocage dans les négociations, mais aussi à la fronde populaire qui a manifesté en masse hier dans les rues de Londres.
Merci à vous, Marina Daras, à Londres. Une septuagénaire hospitalisée à Nice hier après un rassemblement interdit de gilets jaunes. Cette militante altermondialiste de 74 ans a été blessée à la tête après une charge de la police contre des manifestants. Une enquête a été ouverte ce matin par le parquet et la famille de la victime va porter plainte. Bonjour Pierre-François Plessis.
Bonjour.
Pierre-François, quels sont les éléments à la disposition des enquêteurs ?
La charge des CRS a été filmée et diffusée en direct. Sur les images, on voit les forces de l'ordre avancer au pas de course sur la foule, bouclier en avant. Puis on aperçoit une manifestante au sol, inconsciente dans un premier temps, par terre. À côté d'elle, son drapeau arc-en-ciel flanqué du mot paix. Selon les témoins, Geneviève Leguet a été renversée par les policiers et dans sa chute, sa tête aurait heurté un plot en pierre. Elle a ensuite été emmenée à l'hôpital par les pompiers. À ce moment, la militante pacifiste avait repris connaissance. Dans un contexte tendu où la politique répressive du ministère de l'Intérieur est fortement critiquée, la vidéo a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la septuagénaire est toujours hospitalisée. Elle souffre de plusieurs fractures au crâne, mais ses jours ne sont pas en danger. Elle a pu parler avec ses 3 filles qui ont contacté l'avocat parisien Arié Halimi pour déposer plainte demain à Nice. Et le choix d'Arié Halimi illustre bien l'aspect politique de cette affaire. Il est membre de la Ligue des droits de l'homme, défenseur de nombreux gilets jaunes. C'est lui qui a fait libérer hier ce couple, accusé d'avoir participé au saccage du Phuket le week-end dernier.
Merci à vous, Pierre-François Plessis. C'est une visite symbolique qui se déroule en ce moment même dans la principauté de Monaco. Le président chinois Xi Jinping y fait une courte étape avant de passer 2 jours en France, étape très politique et économique puisqu'il s'agit pour le président chinois de saluer les investissements de Monaco dans le domaine de la téléphonie et notamment en matière de développement de la 5G fait avec le groupe Huawei. Nathanaël Charbonnier.
Il y a des petites prises de guerre qui peuvent s'avérer géantes. Monaco, 2 km² seulement, a décidé de dire oui à la 5G du groupe chinois Huawei. Une aubaine pour le leader mondial de la 5G qui est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis et qui tente d'imposer sa technologie dans le monde. Une aubaine aussi pour Monaco qui devient pionnier en matière de 5G. Kevin Polizzi, PDG de la société Jaguar Network.
Monaco a compris que le fait de déployer la 5G avant tout le monde leur confère une image de modernisme incontestable. Je pense que Monaco aujourd'hui est en train de devenir le leader du sujet et va très très rapidement inspirer d'autres pays à copier cet exemple-là.
Huawei qui met un pied en Europe par Monaco, un danger, explique les uns qui voient le rocher comme un cheval de Troie des Chinois. Il faut dire que sa technologie fait peur. On soupçonne Huawei de vouloir nous espionner avec ses téléphones. Pas grave, car on a la parade, explique explique Kevin Polizzi.
Aujourd'hui, la France a une agence gouvernementale qui s'appelle l'ANSSI et tous ces équipements-là sont testés, audités, validés. Il faut s'assurer que les équipementiers internationaux répondent à des normes de sécurité que le gouvernement a d'ores et déjà fixées pour la 5G.
Et la France dans tout cela, la présence de Huawei à ses portes lui permet de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire de ne pas forcément dépendre de l'autre acteur du secteur, à savoir les Américains.
Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Le naufrage d'un bac sur le Tigre a fait 100 morts jeudi en Irak. La plupart étaient des femmes et des enfants qui devaient rejoindre un parc de loisirs pour la célébration du nouvel an kurde. Les autorités de Mossoul font part d'un accident dû à la surcharge du bateau et au haut niveau du fleuve. Les familles des victimes demandent des comptes et protestent contre ce qu'elles dénoncent comme un nouvel exemple des maux chroniques du pays, la corruption et l'incurie. Et de quatre défections parmi les proches de Justin Trudeau depuis le début de l'affaire Lavalin. Le plus haut fonctionnaire du Canada, Michael Wernick, a demandé lundi sa retraite. Ces dernières semaines, les ministres de la Justice et du Budget ont quitté le gouvernement, de même qu'un proche conseiller du Premier ministre. Le pays traverse une grave crise politique depuis qu'une ancienne ministre de la Justice a fait part de pressions exercées sur elle pour éviter un procès au groupe de BTP accusé de corruption en Libye entre 2001 et 2011. Lavalin emploie 50 000 personnes dans le monde. Cyril Ramaphosa, coincé pendant 4 heures dans un train pour cause d'incident. Cela ne pouvait pas mieux tomber pour les usagers du train, car le président sud-africain, vêtu d'une veste aux couleurs de l'ANC, avait prévu un trajet d'une durée de 45 minutes, non loin de Pretoria, pour mener la campagne de son parti en prévision des législatives du 8 mai. Et en 4 heures, les usagers ont eu largement le temps de lui expliquer ce qu'il vivait régulièrement. C'est un premier ministre israélien en pleine campagne électorale qui sera reçu demain par Donald Trump. Et en guise de cadeau de bienvenue, le chef de l'exécutif américain s'est prononcé pour une reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan occupé depuis 1967 puis annexé. Grégory Phillips, vous êtes notre correspondant à Washington. Les déclarations et décisions prises par le président américain sur la question du Proche-Orient devancent le plan de paix promis, sans cesse retardé, mais dont on ne sait toujours pas grand-chose aujourd'hui.
Maintes fois annoncé, maintes fois reporté, ce plan de paix américain pour le Proche-Orient, c'est l'œuvre de Jared Kushner, le mari d'Ivanka, le gendre du président, qui porte ce projet quasiment depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais en vérité, personne ne sait exactement ce que comporte le plan. Kushner, qui était au Proche-Orient encore le mois dernier, laisse entendre que cette solution nécessitera des concessions de part et d'autre, tant du côté des Israéliens que des Palestiniens. Pour cela, l'émissaire américain compte sur le soutien et l'appui des voisins jordaniens et aussi de l'Arabie Saoudite. Mais en vérité, les derniers signaux envoyés par les Américains ne l'ont été qu'en direction d'Israël, le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, et puis cette semaine, l'annonce par Trump de la prochaine reconnaissance de la souveraineté de l'État hébreu sur le plateau du Golan. Cette semaine, enfin, Mike Pompeo, le patron de la diplomatie américaine, était à Jérusalem. On l'a vu au côté de Benjamin Netanyahou se recueillir devant le mur des lamentations, et surtout le secrétaire d'État n'a même pas pris la peine d'aller à la rencontre des dirigeants palestiniens. À Ramallah, on semble ne plus attendre grand-chose de ce plan de paix américain qui, c'est une certitude, ne sera pas dévoilé avant les élections israéliennes du 9 avril.
Ne pas sacrifier l'aide au développement pour augmenter les dépenses militaires, c'est l'argument martelé mardi par Angela Merkel, qui ne compte donc pas céder aux pressions américaines. La correspondance de Nathalie Versieux à Berlin.
Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, avait le choix entre fâcher les alliés de l'Allemagne ou provoquer un nouveau conflit au sein de la coalition au pouvoir à Berlin en rognant sur les dépenses sociales. Il a opté pour le premier scénario. En clair, Berlin prend le risque de fâcher les Américains en limitant la progression de ses dépenses militaires. Donald Trump reproche régulièrement à Angela Merkel de faire trop peu pour la défense commune. L'Allemagne avait promis en 2014 de se rapprocher de l'objectif objectifs que se sont fixés les pays membres de l'OTAN, consacrer 2% de leur budget aux dépenses militaires. En 2020, Berlin promet de consacrer 1,37% de son PIB à la défense, mais pour replonger en 2023 à 1,25% du PIB pour les dépenses militaires. Les zigzags de la politique allemande de la défense irritent Washington au point de provoquer une mini-crise diplomatique avec le bouillant ambassadeur américain à Berlin, Richard Grenell, accusé par l'opposition de se comporter en envahisseur.
Le numéro de duettiste du couple Conway est assez inédit et, disons, amuse depuis plusieurs mois Washington. Lui, George Conway, avocat conservateur, s'affiche désormais anti-Trump, affirme qu'il préférerait déménager en Australie plutôt que de contribuer à sa réélection et met même ouvertement en doute sa santé mentale. Mais voilà, celle qui est omniprésente sur les plateaux de télévision pour défendre le président américain est Kellyanne Conway, conseillère de Donald Trump et épouse de l'avocat contestataire. À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabila Mel. À dimanche prochain, ce sera nuageux au nord et ensoleillé au sud pour le temps de l'après-midi. Édition préparée avec M. Le Chili. À la technique, Pierrick Monsigny.